midi, midi 15, le quart d'heure actu sur RCN. Magali Santulli.
Bonjour à tous, nous sommes le lundi 29 juin, nous fêtons les Paul, les Pierre, les Pablo et les Pierrick. C'était un 29 juin 1986, l'Argentine s'impose face à l'Allemagne de l'Ouest par 3 buts à 2 et remporte la Coupe du Monde de football à Mexico. On jette un œil à la météo du jour en Meurthe-et-Moselle, la baisse des températures et le changement de masse d'air se confirment. Les orages de la nuit laissent place à des éclaircies, même si on pourrait avoir quelques averses orageuses localement cet après-midi, en particulier vers le sud du département. La chaleur restera estivale mais beaucoup plus supportable. Le mercure affichera de 24 à 26 degrés pour la seconde partie de journée. Dans notre dossier du jour, je vous emmène dans les coulisses de la SPA de Lorraine et puis nous poserons cette question à l'heure du numérique. Comment l'information et la place des journalistes se transforment-elles? Mais d'abord, la Meurthe-et-Moselle passe en situation d'alerte sécheresse. Des restrictions d'usage de l'eau sont mises en place pour l'ensemble des usagers, que ce soit les collectivités, les industriels, les agriculteurs et les particuliers. La situation d'alerte applique par exemple l'interdiction du lavage des véhicules, sauf dans les stations de lavage professionnelles, l'interdiction de remplissage des piscines, l'interdiction de nettoyage des espaces extérieurs, sauf par un professionnel, ou encore l'interdiction d'arrosage des pelouses, potagers privés ou espaces verts publics de 10h à 18h.
Le quart d'heure actu sur RCN.
Tout de suite, c'est le rappel des titres. 11 personnes sont mortes dans le crash d'un avion civil lors d'un baptême de parachutisme dimanche à Tomblaine. L'avion immatriculé en Allemagne a décollé à 11h de l'aérodrome de Nancy-Essey pour un baptême de saut en parachute. Donc, quelques secondes plus tard, l'avion est tombé subitement aux abords immédiats de l'aérodrome, a déclaré Yves Segui, le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui précise que l'avion tombé à pic a connu une avarie qui a manifestement provoqué le crash, mais la raison de cette panne est encore inconnue. Un périmètre de sécurité a été installé tout autour du lieu du crash. 5 moniteurs, 5 élèves de parachute et le pilote de l'avion sont morts dans l'accident qui n'a pas fait de victime collatérale au sol. L'engin s'est écrasé au sud de l'aérodrome sur une zone herbeuse à proximité de la piste, non loin du supermarché Auchan de Tomblaine. Parmi les victimes figurent des infirmiers libéraux. Une partie des familles des victimes a assisté à la chute de l'aéronef. Toutes ont été prises en charge par la cellule médico-psychologique, tout comme des témoins du crash. De nombreux moyens ont été déployés sur place pour déterminer les raisons de ce drame qui a nécessité l'intervention de 50 pompiers avec 25 engins. Aucune hypothèse n'est pour l'heure écartée. Panne de moteur, malaise du pilote, mauvaise disposition des passagers qui aurait pu causer un déséquilibre. C'est une société spécialisée dans l'initiation en saut en parachute qui avait loué cet avion ce dimanche. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, s'est rendu sur place en fin d'après-midi accompagné du ministre des Transports Philippe Tabarot. Le parquet de Paris s'est saisi de l'enquête. Il s'agit de l'accident le plus meurtrier en France pour l'aviation générale, hors transport militaire et commercial. La métropole du Grand Nancy a mis à disposition plusieurs lieux de recueillement, notamment au stade Marcel Picot. La préfecture a activé la cellule d'information du public. Le numéro, c'est le suivant, le 09 70 80 90 40. Allez, on passe tout de suite au dossier du jour.
RCN, le quart d'heure actu, Magali Santulli.
Et tout au long de la semaine, je vous emmène dans les coulisses de la SPA de Lorraine. Laurent Demar, responsable du refuge de Velay-en-Haye, fait le bilan de l'année écoulée.
C'était une année assez habituelle, mais habituelle, ça ne veut pas dire calme. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de boulot quand même, beaucoup d'animaux blessés, je trouve, par rapport aux autres années par contre. Donc des gros frais vétérinaires sur pas mal de chats principalement. Peut-être plus de cas de maltraitance également, qu'on a pu régler, mais peut-être une augmentation au niveau des cas de maltraitance. Mais sinon, malheureusement, il n'y a pas eu de baisse d'abandon.
Alors, comment expliquer l'augmentation des cas de maltraitance cette année ?
Peut-être que les gens comprennent. On a aussi peut-être le fait qu'on ait maintenant une employée qui est dédiée à ça, en partie. Donc, on peut consacrer plus de temps aux cas de maltraitance. Mais je pense que les gens sont peut-être un petit peu plus conscients maintenant que c'est des animaux sensibles. Et que, voilà, en voyant le voisin taper son chien ou voyant un animal vivant dans de mauvaises conditions, peut-être que du coup, les gens réagissent plus facilement et nous contactent plus facilement.
Le refuge est complet en permanence, hein, en sureffectif au niveau des chiens notamment. La SPA dispose pour eux de 22 boxes. Du côté des chats, c'est actuellement la période où la SPA recueille de nombreux chatons.
En permanence, en ce moment, on va dire une cinquantaine de chats. Quand les chatons seront là, on aura beaucoup moins d'adoptions de chats adultes. Hein, du coup. Donc le refuge va se remplir. Ça se décante souvent, on va dire, début août. Les adoptions reprennent un petit peu plus, mais les gens n'adoptent pas avant de partir en vacances. Ce qui n'est pas plus mal, on va dire. Mais j'ai toujours autant d'arrivées, mais moins d'adoptions.
Et la suite du feuilleton à la SPA, ce sera demain.
RCN, le quart d'heure actu, Magali Santulli.
Les réseaux sociaux prennent-ils une place croissante dans l'accès à l'information ? C'est une affirmation. Les réseaux sociaux prennent une place croissante dans l'accès à l'information. Et les plateformes s'imposent devant les médias traditionnels comme source d'information. Alors, à l'heure du numérique, comment l'information et la place des journalistes se transforment-elles ? Alexis Barthélémy a mené l'enquête dans un reportage à suivre tout au long de cette semaine. Écoutez ce premier épisode.
Depuis plusieurs années maintenant, Internet et les réseaux sociaux prennent une place importante dans nos vies. Et avec cet essor, l'information aujourd'hui ne passe plus tout à fait par les mêmes canaux qu'il y a 15 ou 20 ans.
Moi, je m'informe principalement sur YouTube.
Moi, j'admets, c'est majoritairement les réseaux sociaux.
Je suis surtout sur TikTok.
Et cette ascension fulgurante profite notamment à une catégorie de personnes, les influenceurs, dont certains prennent de plus en plus la place des journalistes malgré une grande différence de fiabilité.
Ils font partie de ces gens qu'on aime écouter, comme si c'était un ami ou un pote.
On est dans une frontière de plus en plus floue entre qui est journaliste, qui ne l'est pas.
Mais pourquoi les influenceurs attirent-ils une population de plus en plus grande au détriment des médias traditionnels ? Comment ces derniers continuent-ils malgré tout d'avancer ? Une coexistence est-elle même possible entre journalistes et influenceurs ?
C'est ce que nous allons voir cette semaine.
Un monde sous influence, les influenceurs prennent-ils le dessus sur les médias ? Une enquête signée Alexis Barthélémy, Paul Merle, Lisa Canastra, Mickaël Huélin et Romain Fournier.
Nous sommes le 15 janvier 2026. Ce jour-là, le 39e baromètre du groupe Verian pour le journal La Croix est publié. Mais ce baromètre, qu'est-ce que c'est concrètement ? En gros, c'est un document qui dévoile chaque année tout un tas d'informations et de chiffres autour d'une même problématique. La confiance des Français dans les médias. Le baromètre est renouvelé tous les ans depuis 1987. Et cette année, on remarque qu'il y a un type de média assez nouveau qui prend de plus en plus d'importance. En effet, l'édition de janvier 2026 révèle que 45% des Français s'informent via les créateurs de contenu et les influenceurs.
Ça fait beaucoup là, non ?
Mais du coup, vous vous demandez peut-être une chose. Comment est-ce qu'on fait la différence entre un influenceur et un journaliste ? Eh bien, en fait, c'est une question assez compliquée. Alors, commençons par définir ce qu'est un influenceur par rapport à un journaliste. Déjà, comme son nom l'indique, un influenceur a pour but premier d'influencer. Là où un journaliste va transmettre une information, l'influenceur, lui, va plutôt transmettre une idée ou une opinion. Ensuite, le travail d'un influenceur et celui d'un journaliste sont très différents. C'est d'ailleurs l'une des différences clés pour Aurélie Aubert, qui est enseignante en sciences de la communication et de l'information à l'université Sorbonne Nouvelle.
On est dans une frontière de plus en plus floue entre qui est journaliste, qui ne l'est pas. Il y a un deuxième élément aussi, c'est est-ce qu'on a de l'information de première main, hein, les journalistes, ils doivent aller sur le terrain, ils doivent aller à des conférences de presse, ils doivent enquêter, etc. Ou bien est-ce que c'est simplement de l'explication, du décryptage à partir de sources journalistiques, donc qui sont en fait des sources secondaires.
Et de la même manière, si le travail est différent, alors le produit l'est aussi.
Faire une petite vidéo de 2 minutes, c'est pas la même chose que de faire une enquête très fouillée. Voilà, il y a des questions de format qui donnent pas accès à la même information.
Notons aussi un aspect mercantile chez l'influenceur qui n'existe pas chez le journaliste. Les créateurs de contenu ne sont pas rémunérés par un journal vu qu'ils travaillent pour eux-mêmes, alors ils vont établir des partenariats. Par exemple, certains influenceurs vont être invités et payés par des événements pour le couvrir et le mettre en avant sur leurs réseaux sociaux. Ça peut aussi être le cas d'une marque qui va alors donner une certaine somme à l'influenceur et celui-ci va parler d'elle sur ses réseaux pour la mettre en avant et inciter ses abonnés à la consommer. C'est pour ça qu'on parle d'influenceur. Il influence son public à aller à tel ou tel événement, à consommer telle ou telle marque, à penser ci ou ça d'une quelconque information. Et c'est bien là la frontière véritable entre un journaliste et un influenceur.
Thank you. RCN, le quart d'heure actu, midi 15.
Et dans le reste de l'actualité, une grande partie de la France voit refluer l'épisode caniculaire historique qui a touché le pays. La vigilance orange canicule a été levée ce lundi dans toute l'Île-de-France et 9 départements de l'Est. Météo France maintient néanmoins l'alerte orange dans les Alpes de Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, le Var et la Corse. Cette vague de chaleur a été la plus intense jamais mesurée dans le pays. Santé publique France a comptabilisé environ 1000 décès supplémentaires entre le 24 et le 28 juin par rapport au mois précédent. Un premier bilan probablement voué à s'alourdir. Et la pression politique s'est accentuée autour du week-end sur le gouvernement, accusé d'incompétence et d'inaction. Mais l'exécutif s'est défendu de toute impréparation. Le Premier ministre Sébastien Lecornu doit présider ce lundi en fin d'après-midi une nouvelle cellule interministérielle de crise pour dresser le bilan et tirer un retour d'expérience de l'épisode, selon Matignon. Alors que le thermomètre pourrait regrimper bientôt. Météo France fait savoir que pour la semaine du 6 au 13 juillet, le scénario de forte chaleur dans le pays devient plus probable, même si leur intensité reste à ce stade incertaine. Et alors que les soldes d'été ont connu un mauvais démarrage à cause de cet épisode de canicule, le gouvernement a annoncé leur prolongation. Si la nouvelle date de fin n'a pas encore été arrêtée, cette prolongation devrait être de l'ordre d'une semaine. Plusieurs associations de commerçants évoquent une baisse de la fréquentation de 30 à 40% sur les premiers jours de soldes qui ont démarré le 24 juin. Avec la prolongation, les soldes devraient se terminer le mardi 28 juillet au lieu du 21 juillet. C'est une nouvelle journée d'épreuve pour les candidats du brevet. Ce matin, les élèves de 3e ont planché sur l'histoire-géographie et l'enseignement moral et civique. Cet après-midi, ce sera l'épreuve de sciences, dans une ambiance beaucoup moins chaude que durant l'examen de français la semaine dernière. Demain, dernière épreuve avec les maths. Le ministre de l'Éducation nationale s'attend à une chute assez drastique du taux de réussite. Cette année, les épreuves terminales comptent pour 60% de la note finale et le contrôle continu pour 40%. Avocats et magistrats sont appelés à se mobiliser ce lundi dans plusieurs villes de France pour dénoncer le manque de moyens de la justice et demander le retrait de la réforme de la justice criminelle. Réforme portée par le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, qui doit être examinée par l'Assemblée nationale à partir de mardi. La marque Volvic, condamnée en justice pour des pratiques commerciales trompeuses, en cause des mentions neutres en carbone ou 100% recyclables sur ses bouteilles. Le géant de l'agroalimentaire Danone indique que Volvic, dont il est propriétaire, va faire appel de la peine. La sentence condamne l'entreprise à verser 75 000 euros de dommages et intérêts à l'association CLCV, qui dénonçait une forme de greenwashing, ainsi que la publication du jugement sur la page d'accueil de son site internet pendant 6 mois.
Le quart d'heure actu sur RCN.
Le quart d'heure actu, ça touche à sa fin, mais avant ça, on fait le récap sport du week-end. Après plus de 2 semaines de phase de poule, les choses sérieuses ont débuté à la Coupe du Monde un dimanche avec le début de la phase à élimination directe. Le Cap-Vert a décroché son billet pour les 16e de finale et le Canada est le premier qualifié pour les 8e. En rugby, pour la 4e année consécutive, les Toulousains ont remporté le championnat de France en battant en finale Montpellier 28 à 20 samedi au Stade de France. En cyclisme sur route, Célia Géry et Romain Grégoire sont les nouveaux champions de France. Et puis c'était le grand retour de Léon Marchand dans un bassin tricolore depuis les JO de Paris. Aligné au championnat de France à Saint-Étienne, le Toulousain a réussi son retour au pays en empochant un premier titre samedi sur 400 mètres 4 nages. Léon Marchand a au passage signé la meilleure performance mondiale de l'année en 4 minutes 04 56, ce qui est aussi le 5e meilleur temps de l'histoire. C'est Léon qui détient le record du monde sur cette discipline. Et puis en F1, George Russell chez Mercedes a remporté dimanche le Grand Prix d'Autriche. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain, même endroit, même heure.
Pour tout savoir sur RCN, www.rcn-radio.org.